Esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cet esprit public en direct et en public du studio 105 de la Maison de la Radio devant un public nombreux qui a réussi à vaincre tous les obstacles que le Marathon de Paris met pour arriver jusqu'ici. Marathon de Paris qui semble être systématiquement déclenché sous une forme ou sous une autre chaque fois que nous faisons une émission en direct et en public. Et Marathon de Paris qui est un étrange rituel au cours duquel des gens qui n'ont absolument rien à faire aucune raison d'aller d'un point A à un point B, décident pour le faire de choisir le trajet le plus long et courent de toutes leurs jambes pour essayer de rattraper ce choix absurde. Cependant, le public ayant vaincu cette malédiction, nous sommes ici pour essayer d'éclairer certains éléments de l'actualité de la semaine écoulée. Nous le ferons avec François Bujon de l'Étang, ambassadeur de France, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, et avec Sylvie Kaufmann, directrice éditoriale au journal Le Monde. Nous commencerons par nous intéresser au poids du vote blanc et de l'abstention dans la campagne présidentielle française. C'est notre avant-dernier dimanche, au cours duquel nous sommes autorisés à parler de politique intérieure. Le prochain sera en effet le dernier avant le vote lui-même. Le vote blanc et l'abstention sont désormais en forte hausse dans les sondages, portés par une campagne et une offre électorale jugées insatisfaisantes par un grand nombre d'électeurs. Selon un sondage Ipsos réalisé pour Radio France et France Télévisions et publié le 28 mars, seulement 65% des Français auraient l'intention d'aller voter le 23 avril prochain, alors que le taux de participation en France lors d'une élection présidentielle n'est encore jamais descendu en dessous de 70%. L'évolution que je viens de décrire est une évolution constante. Le vote blanc, plus particulièrement, connaît une nette progression. Selon une enquête de l'IFOP réalisée pour Sinopia et diffusée par l'Opinion le 28 mars, 40% des personnes interrogées contre 26% en 2014 souhaiteraient voter blanc si cette expression était prise en compte en tant que suffrage exprimé, avec une capacité de rejet de l'élection et des candidats au-delà d'un certain seuil. Comptabilisé distinctement du vote nul depuis février 2014 dans l'intention de lutter contre l'abstention, le vote blanc n'a pour le moment aucune influence sur le résultat final des élections. Sa reconnaissance comme suffrage exprimé est aujourd'hui largement plébiscitée selon la même enquête IFOP. 86% des personnes interrogées y sont favorables. Une pétition a également été lancée sur Internet par le site change.org. Cette pétition a reçu plus de 250 000 signatures. La pleine reconnaissance du vote blanc est présentée par ses défenseurs comme une alternative concrète au vote contre et à l'abstention qui se sont répandues chez les électeurs ces dernières décennies. Pour d'autres, à l'image du directeur du Centre de recherche politique de Sciences Po, Martial Foucault, elle susciterait au contraire un dysfonctionnement institutionnel marqué par une crise de légitimité du président élu. Les candidats Jean-Luc Mélenchon, François Asselineau, Jean Lassalle, Jacques Cheminade et Nicolas Dupont-Aignan ont inscrit la reconnaissance du vote blanc dans leur programme et seul Benoît Hamon entend soumettre la question à un référendum s'il était élu. Si le recours au vote blanc ou la tentation de l'abstention témoignent d'un désir de renouvellement de l'offre politique, les sondages expriment également la profonde indécision d'un grand nombre d'électeurs français. À 3 semaines du premier tour, de nombreux candidats se tournent désormais vers ces potentiels électeurs, proposant pour certains le vote utile en barrage au Front National, un vote qui ne ferait que tétaniser le débat pour d'autres qui lui opposent le vote de conviction. Sur cette question, Sylvie Kaufmann.
Alors, nous sommes en présence d'une campagne à nul autre pareil. On l'a beaucoup dit dans cette émission, et donc il était inévitable que cela se reflète dans les intentions de vote. Et donc, on arrive à ce résultat aujourd'hui, enfin cette situation. On n'est pas encore au résultat, où on a, comme vous l'avez souligné, pratiquement les 2/3 du corps électoral seulement qui est certain d'aller voter. Et on peut imaginer qu'on dépasse le taux record d'abstention du 21 avril 2002, qui a conduit à la situation que je n'ai pas besoin de vous rappeler, et qui était de 28,4%, ce taux d'abstention. Et puis, on a en plus, donc, pratiquement, je crois, ça tourne autour du chiffre de 40% des électeurs qui ne savent pas encore pour qui ils vont aller voter. Vous avez cité aussi l'inconnu du vote blanc. On a donc un corps considérable d'électeurs flottants qui sont soit abstentionnistes, soit indécis, et ce qui rend cette élection particulièrement imprévisible et complique formidablement le travail des états-majors des candidats. Alors pourquoi ? Pourquoi cette situation ? Je citerai un chiffre, un autre d'un institut de sondage, une enquête d'opinion qui dit que 83% des électeurs trouvent cette campagne de mauvaise qualité. C'est assez révélateur. Alors, il y a ce que, si on cherche des explications, il y a ce que Brice Teinturier, le directeur de l'institut de sondage Ipsos, a très bien décrit dans son livre « Plus rien à faire, plus rien à foutre », ce qu'il appelle la « praf attitude », qui voit émerger depuis une dizaine d'années et qui reflète un électeur en plein désengagement, en pleine désaffection d'un processus politique qui se caractérise par une parole politique démonétisée, des jeux de partis artificiels qui tournent à vide, un système démocratique qui apparaît aux électeurs totalement en panne. Et donc on a ce reflet électorale d'une défiance générale à l'égard des institutions qui inclut les médias, les partis politiques, le Parlement et inévitablement les hommes et femmes politiques qui se présentent à l'élection présidentielle. Il y a aussi une déception très claire à l'égard du bilan présidentiel et de la fonction présidentielle. Les électeurs ont le sentiment que les deux derniers quinquennats ont été dirigés par des présidents qui n'ont pas tenu leurs promesses, je pense qu'on peut remonter un petit peu plus loin d'ailleurs, mais surtout qui ont paru ne pas avoir de prise sur le pays. Par exemple, la persistance du chômage de masse est depuis de nombreuses années est un des facteurs qui explique cette réaction et cette vision, cette perception des électeurs. Et donc on a un rejet de la politique électorale classique qui se traduit de deux manières, soit la montée, d'une part la montée du populisme avec cette installation très très bien ancrée du Front National, et puis je sais que c'est toujours sujet à que ça ne plaît pas toujours aux auditeurs quand on parle du populisme de gauche, mais il y a aussi cette tendance chez Jean-Luc Mélenchon, et puis il y a la révolte silencieuse des abstentionnistes. Les enquêtes d'opinion sont très éclairantes à cet égard. J'en citerai encore une d'Ipsos, selon laquelle seuls 18% des électeurs se disent ont un sentiment positif à l'égard de la politique, et le reste se partage dans l'ordre entre ceux qui sont déçus, entre la déception, la colère, le dégoût et l'indifférence. Voilà. Donc, on a aujourd'hui une situation où la reconquête des prafistes est un enjeu majeur de cette présidentielle. Et j'ajouterai juste une chose, il y a aussi les militants même de l'abstention, parce qu'on a l'abstention désintéressée ou passive, si je puis dire. Et puis il y a des gens comme Antoine Buénot, qui est l'ancien, un ancien collaborateur de François Bayrou, je crois, qui est passé par le monde du one-man show, et qui plaide, lui, pour un militantisme de l'abstention comme signe d'un vote de protestation dans un livre qu'il a écrit, qui s'appelle « No Vote ». Pour lui, l'acte de vote est une... l'acte de voter est une légitimation d'un système qui a échoué, et donc il faut le contrer en s'abstenant. Voilà, c'est un geste politique pour lui. Alors on parlera peut-être plus tard de l'impact que peut avoir cette abstention et cette indécision.
Béatrice Giblin.
Pour essayer de ne pas totalement se déprimer, on peut essayer aussi de voir ce qui se passe ailleurs en Europe. C'est-à-dire qu'ailleurs en Europe aussi, on a une montée de l'abstention. On a aussi des formes de colère, on a aussi un populisme qui s'exprime. Les élections aux Pays-Bas ont suscité beaucoup d'intérêt il n'y a pas très longtemps, avec ce qui a été considéré comme une heureuse surprise qui était toute relative, parce qu'ils ont quand même ce parti de la liberté gagné des sièges, mais effectivement ils ne sont pas arrivés premiers, donc on s'est beaucoup rassuré avec cela. Mais on aurait pu peut-être aussi se rassurer avec ce qui s'est passé en Autriche, où on annonçait l'extrême droite vainqueur, et ça n'a pas été le cas. Donc, c'est pas un phénomène exclusivement français. Je crois que c'est important à rappeler, c'est-à-dire que dans nos démocraties occidentales, il y a effectivement un sentiment de déception, de désillusion. Et alors, pour essayer d'expliquer ça, il faut peut-être placer cette situation dans des temps et dans des espaces un peu plus vastes. Il est bien évident que les lendemains révolutionnaires qui devaient chanter n'ont pas chanté, c'est-à-dire que croire comme on a pu le croire pendant longtemps, et bien qu'il y avait un autre système qui allait pouvoir être plus juste, plus ouvert, beaucoup y ont longtemps cru, porté par des partis politiques comme le Parti communiste, porté par des syndicats, tout ceci est aujourd'hui en dilué, on n'y croit plus vraiment, et aucune idéologie n'est vraiment venue reprendre la relève. Et puis, cette mondialisation inquiétante et des phénomènes préoccupants pour des gens, cette arrivée massive de réfugiés, alors on veut bien être généreux, ah ben oui, mais quand même, ça va coûter très cher tout ça, et puis c'est des emplois qu'on va pas avoir, puis c'est peut-être des terroristes aussi parmi ces réfugiés. Donc un climat d'incertitude qu'on retrouve, mais qu'on retrouve en Suède, qu'on retrouve au Danemark, qu'on retrouve aux Pays-Bas et qu'on retrouve chez nous. Donc, je suis d'accord qu'il y a une situation particulière française et je vais y venir, mais je voulais d'abord replacer ça dans un ensemble un peu plus vaste. On n'est pas si exceptionnel que ça dans cette situation. Alors, que la campagne soit décevante, bah, il faut dire qu'il y a eu de quoi faire pour qu'on soit déçus. D'abord, on s'attendait à ce qu'on ait peut-être un président de la République qui soit candidat. Il a attendu vraiment l'extrême limite pour dire, avec un visage complètement défait, eh ben, je suis obligé de reconnaître que je peux pas y aller. Bon, or, tout avait été fait dans la primaire de gauche pour qu'il fasse cette primaire et qu'il puisse candidater. Donc, on n'a pas eu le temps véritablement d'avoir un débat. On est tous un peu lassés de cette campagne qui a démarré avec les primaires de la droite. Enfin, ça fait un an qu'on est en campagne électorale, d'une certaine façon. J'allais dire, enfin, dans 15 jours, on va voter. Donc, on est assez lassés de cela. Je passe sur les affaires Fillon. Bon, pas la peine de s'étendre là-dessus. Mais on aura peut-être des surprises, on y reviendra peut-être, des surprises un peu à la Trump. C'est-à-dire que dire aujourd'hui qu'on va voter Fillon, bah, c'est quand même... accepter de voter pour quelqu'un qui a un sens, on va dire, de la droiture et de l'éthique limité. Et en revanche, une fois qu'on sera dans l'isoloir, personne ne nous verra. Donc on a peut-être quelques possibilités d'être surpris. Ce en quoi croit parfaitement ce candidat qui fera ce rassemblement à la porte de Versailles tout à l'heure. Donc on a de quoi être déçu par cette campagne. Bon... on attendait plus ou moins Valls, c'est Hamon, qui se trouve totalement dépassé par un Mélenchon complètement grisé par sa montée dans les sondages, dont il dit qu'il n'a aucun intérêt pour les sondages. Mais enfin, depuis qu'il monte sur les sondages, il marche 20 cm au-dessus du sol. Bon, et il est transformé. Et plus question d'international, plus question de drapeau rouge. On ne parle que du peuple français, et de patriotes. Enfin, ça pourrait évoquer d'autres populismes de droite. Bon, mais surtout, ne confondons pas. Lui, c'est dans la générosité. Et je pense qu'il y a quelque chose qui peut être intéressant, c'est, puisqu'on en vient à nos abstentionnistes, peut-être que le discours de Mélenchon va pouvoir susciter un écho auprès d'une population jeune, peu diplômés, qui habitent généralement dans les grandes agglomérations, ou plutôt en banlieue, et qui pourraient peut-être être séduits par ce côté tribun et aujourd'hui ouvert, généreux, avec un certain souffle. On peut penser ce qu'on veut de Mélenchon, mais c'est lui qui fait la bonne campagne, de mon point de vue, pour le moment. Et il peut peut-être susciter un certain nombre d'intérêts. Ce qui veut dire que, sans vouloir lire dans le marc de café, on peut peut-être avoir une situation avec toujours un grand nombre d'abstentions, mais avec quatre candidats qui se soient à très peu de différence de voix. Et ça, ce sera... extrêmement difficile.
Ce que vous dites me rappelle la phrase de Max Gallo que j'ai répétée à de nombreuses reprises dans cette émission, qui est la seule loi de l'histoire, c'est la surprise. Et ce que vous dites sur la différence entre ce qu'on dit qu'on va faire et ce qu'on fait dans l'isoloir me rappelle cette phrase d'un autre absent, Jean-Louis Bourlange, qui disait autrefois, les élections, c'était des salauds élus par des cons, maintenant sont des cons élus par des salauds. François Bugeaud de l'Étang.
Mais après un tel raccourci, je suis sans voix. Je suis sans voix, et c'est dommage, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur un phénomène qui est, au fond, assez confus, parce qu'on mélange tout, si j'ose dire, là-dedans. L'abstention, c'est une supputation, c'est une attente d'abstention. En réalité, on ne peut pas la mesurer aujourd'hui. On ne peut mesurer qu'une intention de vote abstentionniste. Bon. Le vote blanc, c'est autre chose. Le vote blanc, c'est quelque chose qui est actif. L'abstention, c'est passif, par essence. Le vote blanc, c'est actif. Ça consiste à dire, je rejette tout et tout le monde, et je le manifeste en votant volontairement blanc. Et l'indécision, ça, c'est encore autre chose. C'est un état, par définition, transitoire et attentiste. Or, en réalité, tout ceci, ce sont des façons différentes de traduire un malaise profond devant l'état de la classe politique, devant l'état du débat politique en France, et de traduire une désaffection très, très grande à l'égard de la politique. Alors, Madame Giblin a parlé, à juste titre, des exemples étrangers. Et, d'une façon générale, la France se distingue beaucoup des autres grandes démocraties par un taux de participation élevé. Dans toutes ces élections, je la compare aux États-Unis, par exemple, où j'ai longtemps vécu et où le taux d'abstention est considérable. C'est pas toujours autour de 50% quand même. Chez nous, pas du tout. Et dans une élection présidentielle, le taux de participation tourne autour de 80% d'habitude. Et c'est donc très insolite. Ça traduit bien que cette fois-ci, cette année, pour des raisons qui ont été évoquées par l'une et par l'autre, il y a une grande désaffection à l'égard du débat politique. Alors c'est intéressant de s'interroger sur les raisons. Il y a des raisons qui sont simples, qui sont presque objectives. Par exemple, le fait que le président de la République ne se représente pas, vous l'avez dit, le Premier ministre ne se présente pas non plus, et au fond, il y a eu une espèce de jeu de bowling qui a fait tomber beaucoup de quilles au cours des 6 derniers mois, et qui fait qu'il y a une perte de repères, en réalité, des électeurs qui ont à faire des choix inédits. Et dans ces choix inédits, rien ne les passionne, manifestement. Il y a un rejet ou un scepticisme à l'égard de beaucoup d'entre eux. La longueur de la campagne dont vous avez parlé est, je crois, un facteur quand même très, très important, parce que, bien sûr, après l'élection présidentielle, maintenant, c'est une fois tous les 5 ans et non plus une fois tous les 7 ans. C'est ça qui est le temps fort de la vie politique française. Mais là, on est parti. Alors, c'est pire que le marathon de Paris, où les derniers arrivent 5 heures après les vainqueurs. Là, on est quand même parti au début de l'été à cause des primaires. Et on ne dit pas suffisamment le point auxquels les primaires ont perturbé le jeu démocratique en France et sont probablement très largement responsables du taux d'indécision ou de l'intention de vote abstentionniste. Les gens ont eu le sentiment, il y a un phénomène de lassitude, il y a un phénomène de saturation, et en outre, sur le plan du débat idéologique à droite comme à gauche, il y a le sentiment que, au sein de la droite, le débat idéologique a eu lieu entre les grands candidats en octobre-novembre. Au sein de la gauche, il a eu lieu et il a été tranché par la primaire socialiste au mois de janvier. Et par conséquent, le débat a déjà eu lieu. Alors de quoi débattons-nous, finalement? Nous débattons d'autre chose. Il y a 11 candidats. Mais il n'est pas facile de le résumer, le débat. D'abord, il a été, bien entendu, pollué, comme on dit, par les affaires, entre guillemets. Les affaires, c'est-à-dire largement par la saga de François Fillon et des révélations qui ont entouré sa campagne et qui l'ont empêché de s'exprimer pendant très très longtemps. Et c'est vrai, on peut penser ce qu'on veut du fond de la chose, mais c'est vrai que le débat sur ces incidents a occulté le débat de fond sur les programmes. Donc ça, c'est une raison possible aussi de la désaffection. Mais surtout, il est difficile d'identifier aucun des grands candidats avec une idée maîtresse qui permettrait de structurer la campagne. Rappelez-vous des campagnes présidentielles précédentes. Elles ont eu lieu généralement sur des thèmes qui étaient bien définis. Il y a eu le débat sur la fracture sociale qui avait par exemple caractérisé une de nos élections présidentielles. Oui, Chirac. Il y a eu le débat sur la sécurité qui, au moment de l'élection de Nicolas Sarkozy, l'a emporté sur d'autres considérations. Mais cette fois-ci, on hésite. On passe des problèmes identitaires, des problèmes d'immigration, à des problèmes au contraire économiques et sociaux, à l'état du modèle social français. Il n'y a rien qui domine véritablement le débat, il n'y a rien qui le structure, et je reviens sur cette idée que je crois juste pour ma part, que le débat idéologique à droite, le débat idéologique à gauche ont eu lieu plus tôt dans des phases antérieures de la campagne, et qu'aujourd'hui, où on n'a plus un débat droite-gauche, mais un débat beaucoup plus différencié, beaucoup plus nouveau en un sens, et où on assiste à une fragmentation du spectre politique et à un reclassement des forces politiques, le débat lui-même n'est pas structuré du tout et peut décourager beaucoup d'électeurs qui, au fond, sont là de cette politique et ont le sentiment qu'on ne s'adresse pas à leurs problèmes.
Sylvie Goffman.
Oui, j'ajouterais à ce que vous venez de dire, à ce phénomène de fragmentation, son complément qui est l'effondrement des partis politiques traditionnels. Hein, on a sur les 5 principaux candidats, 2 candidats qui sont censés représenter les 2 grands partis de ces dernières décennies, le parti de... pour simplifier de centre-droite, enfin dans le ex-UMP, etc., et aujourd'hui les Républicains, et puis le Parti Socialiste qui sont en perte de vitesse, même si François Fillon semble se remonter un tout petit peu, mais on a visiblement 2 partis là qui sont en grande difficulté, alors que les 3 autres candidats jouent beaucoup plus sur leur personnalité que sur leur parti, qui d'ailleurs en général n'en est pas un, c'est beaucoup plus un mouvement au service de leur propre personnalité. Personne que, dans le cas d'Emmanuel Macron, c'est carrément un mouvement, que des partis politiques. Donc pour l'électeur, tout ça favorise évidemment une sorte de nomadisme électoral qui est sans précédent, je crois, d'autant plus qu'il correspond à une tendance générale dans la société, en dehors du processus purement politique, qui est sensible en particulier chez les jeunes, avec c'est ce qu'on voit dans le monde du travail, avec la précarisation du contrat de travail, la fragilisation du lien du salarié par rapport à son employeur. On voit bien qu'il y a un impact négatif sur la loyauté vis-à-vis de l'entreprise ou de l'employeur. Eh bien, on retrouve la même chose ici, un impact négatif sur la loyauté de l'électeur vis-à-vis des partis auxquels il était plus ou moins affilié idéologiquement. Vous savez, on comparait souvent l'électeur au consommateur qui, au moment où il choisit d'acheter une voiture, il va vers une marque, mais il s'en fiche un peu. Il a moins de discernement sur le modèle lui-même. Donc, on va vers un parti et puis on s'aligne sur le candidat que ce parti a sélectionné. Là, on est beaucoup moins. On a un électeur qui s'apparente plus à un consommateur avisé, qui est une sorte d'électeur stratège, qui a un certain nombre de points de repère et qui va donc aller d'un candidat à un autre en fonction de l'offre et de la manière dont l'offre correspondra à ses valeurs. Et donc, on a ce qui explique assez bien cette indécision jusqu'au dernier moment. Je voudrais juste dire un petit mot sur les conséquences possibles de cet important corps d'indécis et d'abstentionnistes. Ce que relèvent les experts électoraux, c'est que cette indécision, elle est beaucoup plus forte à gauche. C'est là qu'apparaît le spectre, bon, pour diverses raisons que vous avez, qu'on a entendues, qui est aussi cette raison de cette perspective de profonde recomposition politique à gauche, mais dont on ne connaît pas encore les contours. Et donc, c'est là qu'apparaît le spectre de l'abstention différenciée et le scénario de la victoire de Marine Le Pen grâce aux abstentionnistes qui sont plus nombreux à gauche qu'à droite. C'est le scénario notamment que met en avant Serge Galam du Vipov, qui est un physicien spécialiste des systèmes désordonnés, donc là il est tout à fait à son affaire. Et ce qui est troublant, c'est que ce physicien a prédit correctement tout un tas de séries de scrutins, le non au référendum européen, l'arrivée de Jean-Marie Le Pen en 2002 au deuxième tour, et la victoire de Trump aux États-Unis, où je vous rappelle qu'il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'indécis. Donc il faut regarder ce qu'il dit de près, c'est assez inquiétant. Il dit que le fameux plafond de verre qui barre la route au deuxième tour, traditionnellement au Front National grâce au Front Républicain qui se forme pour lui barrer la route, peut tout à fait voler en éclats sous l'effet d'un phénomène invisible et trompeur qui est celui de l'abstention qui se manifeste de manière disproportionnée à droite et à gauche. Et donc, les abstentionnistes seront plus nombreux au détriment du challenger de Marine Le Pen, quel qu'il soit. Voilà. Oui, vous imaginez le résultat sans peine.
Béatrice Gibelin.
Oui, je pense qu'il faut aussi tenir compte de quelque chose. On a raison de remettre au fond cette évolution dans des temps longs et de dire on a eu un débat droite-gauche qui était mieux structuré. Au fond, on avait moins d'indécis et 2 mois ou 6 semaines avant l'élection, on savait à peu près pour qui on allait voter. Et je pense qu'il faut qu'on tienne compte de quelque chose. C'est-à-dire que l'électorat, le nombre des électeurs croit considérablement dans un laps de temps court. C'est-à-dire qu'on raisonne toujours comme si on était avec le même nombre d'électeurs que ce qu'on avait dans les années 80 ou ce qu'on avait dans les années 90. La France, c'est 66 millions de Français avec une population jeune qui est importante, beaucoup plus importante que ce qu'elle est ailleurs en Europe. Donc on a, j'allais dire, un renouvellement de l'électorat, et on sait que ces jeunes électeurs, parce que par précarisation de l'emploi, par la difficulté à rentrer vraiment dans une vie adulte, ne vont pas aller voter. Mais un certain nombre, ils vont aussi. Et je pense que dans cette montée de l'abstention ou du désintérêt, il faut tenir compte de cette masse d'électeurs nouveaux. Ceux qui votent le plus, c'est, j'allais dire, nous, hein, notre génération. On est âgés, on est formés, on est diplômés, on est dans les vie et nous on va voter. Bon, d'accord. Mais il y a effectivement à tenir compte de ce changement j'allais dire démographique si vous voulez dans l'électorat. C'est important d'en tenir compte. La deuxième chose dont il faut je crois tenir compte, alors je suis d'accord tout à fait avec vous, ça a été déstructuré au fond il n'y a pas au fond un vrai slogan hein, qui va permettre de s'accrocher à quelque chose, en pour ou en contre. Et donc, on s'y retrouve pas. Je veux dire que moi, je me réjouis un peu que le discours identitaire n'ait pas structuré les élections cette fois-ci. C'était ce que je redoutais. Et d'une certaine façon, ça n'a pas été le cas. Et on peut peut-être se rassurer un petit peu avec ça. Mais c'est aussi important, et peut-être que ces 15 jours à venir sont importants, peut-être que c'est là que les choses peuvent se décanter.
Oui,
et c'est sans doute dans les derniers jours. Souvenez-vous, Trump, ça a basculé dans les derniers jours. Et quand on dit toujours, oh, les sondeurs avaient rien prévu, c'est pas tout à fait juste. De même, quand Le Pen est arrivé en 2002, ça s'est joué dans les derniers jours et les courbes se sont croisées. Et le responsable électoral du PS avait tiré la sonnette d'alarme auprès de Jospin en disant attention, attention. Bon, et puis cause toujours. Néanmoins, c'est bien ce qui est passé. Donc il faut faire très attention à ce qui va se passer maintenant. Et je n'ai sans doute pas le temps, mais j'aurais voulu revenir sur le vote blanc, qui me semble quelque chose d'éminemment.
Dites un mot.
Eh bien, moi, je suis très préoccupée par cet engouement pour le vote blanc. J'autoriserai le vote blanc. Je veux dire, c'est pousser les gens à ne pas essayer de s'engager. C'est au fond une forme de fuite de ses responsabilités. Voilà. Il n'y en a aucun qui me plaise. Ben, bien sûr. Il n'y en a aucun qui va nous plaire totalement, puisqu'on est 66 millions et on va avoir deux, in fine, à choisir. Donc on va choisir celui qui nous paraît à peu près le plus correspondre à nos souhaits. Et je dois dire que je suis très hostile à cet engouement sur le vote blanc qui me semble un peu dangereux.
François Bujon de l'Étang.
Je comprends et je sympathise. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'idée que c'est dans la dernière ligne droite que tout va se jouer, bien entendu. D'ailleurs, un certain nombre de candidats en sont profondément convaincus et le disent. C'est effectivement, là, les uns disent c'est dans les 3 dernières semaines, les autres disent c'est dans la dernière semaine ou les 8 derniers jours. Vous avez cité un certain nombre d'exemples de décisions qui se sont faites à la dernière minute. Très récemment, il y a eu celle de la primaire de la droite où la montée de François Fillon, elle était perceptible, mais elle était perceptible dans les 10-15 jours qui précédaient finalement le premier tour. Et personne n'avait d'ailleurs imaginé l'ampleur que prendrait son avance. Donc c'est vraiment le coup de collier du sprint final qui est absolument décisif. Et j'aurais tendance à penser que plus il y a d'indécis et plus il y a de volatilité dans l'électorat, plus la décision se fera vraiment très tard. D'où des surprises évidemment possibles. Quant au problème de l'abstention différentielle dont Sylvie a parlé, c'est en effet un phénomène extraordinairement troublant, mais je pense qu'on peut le moduler en fonction des candidats, puisqu'il y en a dont les sondages ont montré qu'ils disposent d'un socle d'électeurs plus stable que d'autres. Alors c'est le cas bien entendu de Marine Marine Le Pen, ce qui fait que tout le monde pense que cette abstention différentielle pourrait jouer en sa faveur. Mais c'est aussi le cas de François Fillon, par exemple, qui, même au pire de ses mésaventures dans la campagne, a pu compter sur un socle à peu près stable. Alors que si vous regardez l'électorat d'un Macron, par exemple, vous voyez que dans les sondages qui sont faits, quand vous vous adressez aux gens qui déclarent avoir l'intention de voter pour Macron, il y en a entre 40 et 50% qui vous disent dans la foulée que leur décision n'est pas définitive. Il y en a donc dont le socle est plus solide que d'autres, et il y en a qui se prêteraient davantage au phénomène que vous avez décrit que d'autres.
Je voulais juste préciser qu'il a peut-être un socle possible, mais quand on veut être élu au deuxième tour, il faut impérativement élargir ce socle. Exactement. Parce que s'il ne garde ce socle-là, il ira évidemment à l'échec.
C'est là que l'abstention sera importante.
À part qu'elle est à 25% dans les sondages et que lui est à 18%.
Je voudrais juste ajouter une chose à vos sagaces analyses, c'est que il me semble que depuis maintenant des années, peut-être même des lustres, les hommes politiques se sont livrés pieds et poings à des communicants, dans l'idée de se rapprocher du peuple, dans l'idée de se faire apprécier d'une manière ou d'une autre. Et j'ai la conviction que j'aurais sans doute du mal à étayer dans une étude qui prendra une forme un peu sérieuse, un peu sociologique, mais j'ai la conviction que plus ces communicants sont dans le débat public, plus l'éloignement entre le personnel politique et les électeurs est grand, et plus cette façon, au fond, de se livrer à ces jeux du cirque affaiblit ces hommes politiques et les fait passer pour des gens qui vont mendier de la considération ou mendier de l'adhésion, et tout ça d'ailleurs en enrichissant considérablement les gens qui font métier de communicants politiques, mais dont je pense qu'ils sont, et j'ai été très frappé de lire dans, il y a un très bon papier dans Vanity Fair de Sophie Desdéserts, qui était, je crois, sur Mimi Marchand. Mimi Marchand, c'est une personne tout à fait ignorée de moi jusqu'à présent, et j'avais tort. Mimi Marchand est une créature intéressante qui a les deux doigts dans la prise et qui s'occupe essentiellement des paparazzis. Elle a une agence de paparazzi, tous les magazines grâce auxquels nous pensons, Closer, Voici, Gala, etc.,
que nous lisons
ardemment chez nos coiffeurs, sont alimentés par Mimi Marchand. Et Mimi Marchand a la haute main, d'après l'article excellent et documenté de Sophie Desdéserts, sur la communication d'Emmanuel Macron. Et je me suis dit, chercher l'erreur, quoi. Vous savez, comme dans les dessins qu'on faisait autrefois, il y avait le jeu des chaînes erreurs, il y a quelque chose qui ne colle pas. Et cette idée d'employer des communicants pour essayer de faire croire à son discours aboutit là dans le crap aussi à jeter le doute, parce que ça ne va pas. On ne peut pas tenir à la fois le discours que tient Emmanuel Macron et être entre les mains de Mimi Marchand. Ça ne me paraît pas possible.
Comme un palméo pour François Fillon.
Exactement. Voilà. Exactement. Mais là, c'est le dernier exemple en date que je prends. Puis il est documenté à travers ce papier de Sophie Desdéserts dans Vanity Fair. Mais voilà, pour moi, c'est l'illustration de cette nocivité de l'importance des communicants. J'ai été trop long, pardon. Je voudrais maintenant que nous passions à notre deuxième sujet, qui est celui de la politique étrangère de M. Trump. Le président des États-Unis a rencontré son homologue chinois, Xi Jinping, dans son club de Mar-a-Lago, en Floride, jeudi et vendredi dernier. Le sommet a réuni les deux dirigeants pour la première fois, alors que Donald Trump a multiplié les déclarations hostiles à la Chine avant et après son élection. Il a plusieurs fois accusé Pékin de pratiquer une politique commerciale déloyale, qu'il a assimilée à un viol de l'économie américaine, et déclenché une crise diplomatique après un entretien téléphonique avec la présidente de Taïwan. Cet épisode avait provoqué la colère de Pékin, qui se revendique comme la seule autorité légitime sur cette île, au nom du concept de Chine unique. Donald Trump s'est réjoui de progrès spectaculaires dans la relation entre son pays et la Chine, à l'issue de ce sommet, présenté comme un rendez-vous introductif à une relation équilibrée et fondée sur la réciprocité. Il s'est félicité d'avoir développé une relation exceptionnelle avec Xi Jinping et a accepté son invitation à une prochaine visite officielle en Chine. Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, a annoncé à la presse la future mise en place d'un plan de 100 jours qui doit permettre à terme de stimuler les exportations américaines et réduire l'excédent commercial chinois envers les États-Unis, principal sujet de discorde entre les deux puissances. Cette rencontre a été marquée par un revirement stratégique de Donald Trump dans son approche du conflit syrien. Le régime de Damas est accusé par plusieurs pays occidentaux d'avoir mené une frappe au gaz sarin sur le village de Khan Cheikhoun, tenu par la rébellion. L'attaque a provoqué la mort de 86 personnes, dont de nombreux enfants. Le président américain a ordonné jeudi le bombardement de l'aérodrome où stationnaient les bombardiers impliqués dans l'attaque et justifié cette intervention par l'intérêt vital pour la sécurité des États-Unis d'empêcher l'utilisation d'armes chimiques. Il a invité les nations civilisées à se joindre à lui pour mettre fin au massacre et au bain de sang en Syrie. Paris a salué cet avertissement à Bachar el-Assad. Londres a qualifié le bombardement de réponse appropriée à une attaque barbare et Berlin a jugé cette frappe compréhensible. Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé une agression contre un État souverain. La Chine a appelé à éviter toute détérioration supplémentaire de la situation et l'Iran a condamné une action unilatérale sous prétexte d'une attaque chimique suspecte. Les derniers tests balistiques réalisés par la Corée du Nord ont provoqué un accroissement des tensions dans le Pacifique. Un porte-avions américain fait actuellement route vers la péninsule coréenne par mesure de précaution, d'après le commandement américain de la région. Sur cette question, François Bujon de l'Étang.
Alors, Philippe, quand vous dites la politique étrangère de M. Trump, vous forgez un nouvel oxymore. Parce que c'est vraiment lui faire bien du crédit que de dire qu'il a une politique étrangère. Il a, nous en avons déjà parlé, il a des slogans, il a des pulsions, mais qui sont un petit peu comme les façades des usines Potemkin, n'est-ce pas, du début que dénonce si bien Tintin au pays des soviets. Il n'y a pas de machine qui fonctionne derrière ces façades. Il n'y a pas derrière ces slogans de politique qui soit élaborée ou qui soit réfléchie. Et quand vous parlez de virage stratégique, vous lui donnez également un deuxième galon sur sa manche, dont je ne suis pas sûr qu'il le mérite. Mais ce serait un débat de fond. Ce qui s'est passé est très important.
Virage rhétorique.
Il recevait son principal interlocuteur international, qui est le président chinois, M. Xi Jinping. Il le recevait dans sa résidence de Mar-a-Lago pour une confrontation qui est la première des visu, celle téléphonique ne compte pas, et qui promettait d'être difficile, puisqu'il y a entre eux tout un contentieux que M. Trump avait abondamment articulé. Et voilà qu'au milieu de cette rencontre intervient l'incident, si je puis dire, syrien, c'est-à-dire cette affreuse attaque chimique qui a tué en effet 89 personnes, semble-t-il, et qui en a blessé une centaine dans des conditions horribles, et M. Trump décide de donner un coup de poing sur la table, c'est-à-dire de faire une frappe de missiles Tomahawks qui ont écrasé la base aérienne d'où sont partis les avions qui ont fait cette attaque au gaz sarin. Le tout au milieu de la rencontre avec le Chinois qui, du coup, a été complètement éclipsé, en quelque sorte, ou en tout cas, à qui ce bombardement a porté une ombre considérable. Il a d'ailleurs ajouté, il a dit dans une prise de parole qu'il avait prévenu son interlocuteur chinois. Je ne sais pas si c'était entre l'entrée et le plat principal ou entre la poire et le fromage, mais je pense que M. Xi Jinping a dû quand même avaler au moins une bouchée de travers car l'action en elle-même est très importante. Elle est très importante, je ne suis pas sûr que ce soit un virage stratégique, on en reparlera, mais c'était complètement inattendu quand même. Il y a moins de 8 jours, la Maison-Blanche avait déclaré qu'elle ne faisait plus du départ de Bachar el-Assad une condition à une solution diplomatique en Syrie. Il y a moins de 8 jours. Et alors, si vous remontez un peu plus loin dans le temps, en 2013, à l'époque où le président Obama envisageait un bombardement après une autre attaque chimique syrienne, M. Trump, qui n'était pas en politique à l'époque, avait publié un communiqué vigoureux disant « N'attaquez pas la Syrie ». Il n'y a aucun avantage à le faire et il y a de terribles inconvénients. Quel changement, tout à fait symptomatique. Les Russes citent beaucoup d'ailleurs cette citation de 2013 aujourd'hui en critiquant le bombardement qui vient d'avoir lieu. Mais surtout, c'est un changement complet de ligne. Jusqu'à présent, M. Trump était sur la ligne « America first ». Je m'intéresse d'abord aux intérêts des Américains. Je vais les défendre face à nos concurrents commerciaux chinois. Et il était sur une ligne plutôt de non-intervention. On disait même probablement avec excès d'isolation. sionisme. Pourquoi, alors, ce changement? Pourquoi cette initiative? Elle est lourde de signification, cette initiative. Elle envoie un message à tête multiple, comme certains missiles envoient des ogives à tête multiple. Un méchant message aux Russes, si j'ose dire, car c'est quand même aller bombarder de la sorte un allié avéré et un protégé de la Russie avec laquelle on veut nouer un deal. C'est quand même une sacrée initiative. Elle envoie un beau message aux Chinois au milieu du dîner d'apparat à Mar-a-Lago. Elle envoie un message assez clair aux Nord-Coréens, qui sont les clients et les protégés des Chinois. Et accessoirement, un beau message à Damas et à pas mal de protagonistes du monde arabo-musulman, et certainement aux Iraniens, qui ne l'auront pas ignoré non plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les États-Unis sont de retour. Ça veut dire je ne suis pas Barack Obama. Ça veut dire il faut compter avec moi. Ça veut dire je suis capable de prendre des initiatives brutales quand j'estime que c'est nécessaire. Et d'un seul coup, M. Trump, au fond, qu'on avait tendance à prendre pour, en tout cas, un président peu sérieux, je ne vais pas le qualifier davantage, donne l'impression qu'il remet les États-Unis sur la carte de la Syrie, qu'il remet les États-Unis sur la carte du Moyen-Orient et qu'il indique clairement à ses principaux interlocuteurs, russes, chinois et autres, qu'il faut compter avec lui, qu'il sait prendre des décisions, qu'il sait prendre des décisions unilatérales, comme le faisaient d'ailleurs traditionnellement les administrations républicaines en d'autres temps, et qu'il faut compter avec lui.
Béatrice Gibelin.
Je pense qu'il dit là très clairement, encore une fois, « America first ». C'est-à-dire que ce n'est pas du tout une America First seulement sur le terrain interne, comme on avait pu le penser, mais comme vous venez très justement de le dire, il faut que vous comptiez avec moi. Et j'estime qu'il est dans l'intérêt des États-Unis de faire ces frappes. Donc on est bien dans la logique America First. Il ne s'est jamais, enfin, de ce que j'ai pu suivre, il est pour l'usage de la force. Non pas dans des grandes coalitions et dans des alliances larges, mais c'est un homme de coup. Hein, voilà. Et là, s'il y a un coup de force à faire, je le fais. Et il a augmenté quand même le budget, qui est l'un des budgets les plus colossaux qui soit de la défense, puisqu'on est à plus de 500 milliards de budget pour les États-Unis. Et il a augmenté de 10% avec 54 milliards de plus. Ils ne sont pas encore votés, mais c'est bien dans son intention. Je suis d'accord avec vous. Mais en revanche, il a beaucoup coupé dans les crédits de ce qu'on appelle le soft power américain, en disant, bon ben ça, on amuse la galerie avec ça. Au fond, ce qui compte, c'est le rapport de force. Donc, je suis tout à fait d'accord, on a été extrêmement surpris, bien évidemment. Puis si on regarde un peu, en prenant un peu de recul, on trouve des jalons qui peuvent nous expliquer cette attitude. Et puis l'unilatéralisme, très clairement. Je décide seul.
Voilà.
Puis vous avez rappelé aussi une chose, je ne suis pas Obama. Voilà. En 2013, là, il a tergiversé. Et comme vous l'avez rappelé, c'est vrai qu'en 2013, il avait dit, on ne doit pas y aller, on n'a rien à y faire. Mais en 2013, il n'était pas président des États-Unis. Tandis que maintenant, il est président des États-Unis. Eh bien, ça change tout. Bon, et qu'à partir de ce moment-là, c'est moi qui décide. Mais ce qui est, et là je souscris parfaitement ce que vous avez dit, ça ne lui fait pas une politique étrangère, ça ne lui donne pas, et ça ne nous donne pas l'idée qu'il puisse avoir véritablement une vision stratégique, absolument pas. Il est quand même imprévisible, ce qui quand même dans les relations internationales est un peu délicat. C'est quelqu'un qui est très instinctif, il semblerait en tout cas.
Impulsif
aussi, les deux, je pense. Il dit de lui-même, je suis une personnalité changeante. Oui, d'accord. Il va falloir qu'on fasse avec ça. Au fond, j'aime pas trop savoir où je vais. Oui, d'accord. Il va aussi falloir qu'on fasse avec ça. Donc, on n'en a assurément pas terminé.
Ajoutons simplement un mot à ce tableau, si vous permettez, c'est que c'est la chose au monde que les Chinois détestent le plus.
Tout à fait.
L'imprévisibilité les rend malades.
À quoi on peut ajouter ou rappeler simplement que ce sont les Chinois qui sont les propriétaires de la dette américaine, ce qui n'est quand même
pas... Oui.
Quelques centaines de milliards. Sylvie Kaufmann.
Oui, pour compléter ce qui a été dit et qui est très juste, j'approfondirai l'idée de se présenter comme l'anti-Obama. Ça, si on se projette sur la scène politique intérieure, on voit bien aussi cette affaire arrive, si j'ose dire, malheureusement, à point nommé, parce que dans son obsession de démanteler l'héritage d'Obama, de détricoter tout ce qui a été fait, pour l'instant, il avait un petit peu de mal. Et donc, ces décrets pour restreindre l'immigration des pays... Le Moyen-Orient sont bloqués par des juges. Il a essuyé un échec absolument lamentable sur l'Obamacare, le système de santé d'assurance maladie. Donc il fallait qu'il on approche de la ligne des 100 jours que la presse américaine suit très très attentivement. Et donc il fallait qu'il ait quand même des choses à son actif. Cette semaine n'était pas mauvaise pour lui finalement, parce qu'il a eu à un prix politique assez lourd que je ne détaillerai pas ici, mais la confirmation du juge qu'il avait nommé pour la Cour suprême. Et puis il a donc ce coup de semonce, cette impression de fermeté en matière de politique de sécurité, de politique extérieure, comme vous l'avez dit juste au moment où il recevait le président chinois, qui le place en bonne posture, dirons-nous. Alors qu'est-ce que ça nous dit du personnage ? Moi, je crois que d'abord une chose qu'on peut souligner, c'est quand même l'influence des militaires autour de lui. N'oublions pas qu'il a 4 généraux dans son administration, et pas des moindres, le général Mattis, qui est le secrétaire à la défense, qui est quelqu'un qui est unanimement respecté. Alors dans le chaos ambiant à Washington, tout le monde vous dit c'est un type formidable, au moins il est c'est quelqu'un qui est sûr, qui est raisonnable, qui est expérimenté. Et on voit que l'establishment de Washington est en train de se raccrocher à ses généraux d'une manière assez amusante, parce que finalement, on a l'impression d'un groupe d'adultes dans une cour de récréation d'enfants turbulents auquel on se raccroche. Mais là, on décèle, y compris dans la phraséologie utilisée, on décèle, je crois, pas mal l'influence des militaires. Et un des autres généraux, le général McMaster, qui est son conseiller à la sécurité nationale, a également remporté une petite victoire dans le microcosme washingtonien, c'est qu'il a réussi à évincer Stephen Bannon, qui est l'idéologue assez très extrémiste, qui est le conseiller stratégique en chef de Donald Trump. Il a réussi à l'évincer du Conseil de sécurité nationale où il avait été installé, ce qui avait fait hausser beaucoup de sourcils à Washington. Donc on voit là d'une part l'influence de ces généraux. On voit aussi, je crois que vous l'avez dit, cette capacité à changer d'avis sur tout, une façon sans aucun scrupule, hein, sans aucune gêne. On voit aussi une communication où on donne peu d'explications politiques. L'habillage politique de cette décision de frapper en Syrie, c'est très succinct. Il dit, voilà, notre intérêt vital, l'intérêt vital des États-Unis était en jeu, mais il n'explique pas comment, ça n'est pas du tout détaillé. On voit que en revanche, il parle beaucoup de l'émotion, c'est those beautiful little babies, voilà, bon, c'est à la Trump, c'est une description de ses photos, enfin, on a l'impression, il explique mieux l'émotion que ça a causé que la rationalité de l'acte politique, de la décision militaire elle-même. On ne nous explique pas, par exemple, pourquoi ces 59 Tomahawk n'ont pas détruit la piste aérienne, la piste de la base aérienne d'où des avions syriens sont repartis. Il n'y a pas non plus d'habillage légal. On ne s'embarrasse pas d'une résolution hypothétique aux Nations Unies. Et puis, pour la première fois, je crois, il se présente un peu comme le leader du monde, ce qu'il avait refusé de faire jusqu'ici. Il a terminé son intervention par... que Dieu bénisse l'Amérique et le monde entier. Merci, on en avait besoin, justement. Et donc, on voit dans ce tournant que vous avez décrit, je crois que c'est un élément qu'on peut aussi prendre en considération.
François Bujon de l'Étang.
Bon, plusieurs choses. La première, c'est que Sylvie a tout à fait raison de replacer ça dans le cadre de la politique intérieure américaine. Il a collectionné les déconvenues, les échecs, les mauvaises manœuvres. Il a besoin d'un succès rapide et on pouvait prédire, en effet, qu'il allait rechercher un succès dans une aventure internationale. Elle s'est présentée du fait de Bachar el-Assad. Il l'a saisie. Alors, ce n'est pas tout, puisque la menace nord-coréenne est là et que la Maison-Blanche a annoncé cette nuit qu'elle faisait faire route vers les côtes coréennes à un groupe de porte-avions qui part de Singapour et qui se dirige vers la Corée. On a le temps, mais c'est quand même significatif qu'il annonce ça au lendemain de son action. Il a démontré, en tout cas, un goût pour la manière forte. Et il refait de l'action militaire un outil de géopolitique, ce que Barack Obama n'aimait pas faire. Ça, c'est une indication en elle-même très importante et qui ne sera pas perdue ni pour M. Poutine, ni pour le président Rouhani, ni pour les Chinois qui sont repartis avec quand même quelques leçons dans leur escarcelle. Et puis, je disais que c'est pas annonciateur d'un virage parce qu'il n'y a pas de réflexion véritablement stratégique derrière. On ne sait pas du tout quelle est la stratégie américaine au Moyen-Orient. Elle n'est pas claire. Ce qui est clair, c'est qu'il a bousculé l'échiquier d'un seul coup, que les Russes doivent beaucoup plus tenir compte de Washington désormais dans le jeu syrien qu'il ne le faisait jusqu'à présent, et que la relation russo-américaine ne se présente pas du tout aujourd'hui dimanche de la même façon qu'elle se présentait mercredi dernier, par exemple. Peut-être après tout, M. Poutine va-t-il regretter d'avoir fait des cyberattaques contre M. Trump et va-t-il se dire qu'il aurait mieux fait de faire élire Hillary Clinton ?
Béatrice Duplain.
Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la transformation d'un personnage quand il est en position d'exercer le plein pouvoir. Trump, je le redis, est désormais président des États-Unis avec un sentiment de puissance et d'un immense pouvoir, et je pense que ça joue aussi sur sa psychologie. Je pense que vis-à-vis des Russes, Poutine doit se dire, tiens, lui aussi. Hein? C'est-à-dire que les coups de force, la Crimée, on peut voir ça comme des coups de force. Ce qui change un peu les choses, mais la réaction des Russes n'a pas été aussi alarmante qu'on aurait pu l'imaginer. Bon, ils ont dit effectivement les plans de vol pour combattre et bombarder l'EI. Ça y est, c'est terminé, on ne fait plus de coopération. Bon. C'est suspendu, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas repris. Donc, et en plus, le secrétaire d'État va bien la semaine prochaine, deux jours à Moscou, et on n'a pas suspendu cette rencontre. Donc je trouve que la riposte russe est relativement mesurée. Bon, donc on prend la mesure du personnage. Mais peut-être sont-ils aussi comme nous, à se dire, bon, mais comme il est imprévisible, comme on ne sait pas exactement ce qu'il y a, on ne peut pas voir sa stratégie, wait and see, et on va voir un peu comment les choses peuvent se passer. En revanche, ce qui est intéressant, c'est autant les Européens étaient très très inquiets, puisqu'ils avaient dit, bon, si vous ne mettez pas 2% de votre PIB dans la défense, moi l'OTAN, ça commence à bien faire, pas de raison que je banque pour vous. Cette réaction-là, regardez la réaction du Royaume-Uni, regardez la réaction du président français, regardez la réaction d'Angela Merkel, tiens, au fond, il réagit à des moments qui nous semblent tout à fait intéressants. Ça peut aussi changer la perception en Europe qu'on a du personnage, qui était quand même extrêmement méfiante. Le dernier personnage qui s'est réjoui, mais trouve qu'on n'en fait pas assez, c'est Erdogan, dont on n'a pas dit un mot. Mais je pense qu'effectivement, la situation de la Turquie vis-à-vis de Trump et vis-à-vis de l'OTAN est tout à fait essentielle.
Sylvie Kaufmann. Mais
juste pour terminer, moi, je crois que ce qui est frappant aussi, c'est qu'on n'a pas de stratégie. On a un geste fort, spectaculaire, puis d'un geste de puissance et d'affirmation de l'outil militaire dans la géopolitique, mais on n'a pas de stratégie qui vient derrière. On assiste à un revirement important sur l'attitude vis-à-vis de Bachar al-Assad. Jusqu'ici, ces derniers jours, l'administration américaine disait c'est au peuple syrien de décider et n'avait pas de problème avec le maintien de Bachar al-Assad au pouvoir. Maintenant, virage à 180 degrés, Assad doit partir. Donc, comment cela va se faire? Quel est le rôle des alliés aussi là-dedans? Tout ça, il reste quand même extrêmement flou.
Je vous remercie. Je vous propose que nous passions maintenant à notre dernière séquence, qui est la séquence des brèves. François Bujon de l'Étang, est-ce que vous voulez l'ouvrir ?
Ah, nous sommes en Amérique, alors nous allons y rester. Je voulais signaler l'apparition d'une nouvelle revue, une espèce de, un objet journalistique non identifié, la revue America, qui est une production d'Eric Fotorino, du 1 et bien entendu de la Grande Librairie. C'est une revue trimestrielle que va diriger François Busnel, qui veut éclairer l'Amérique de Trump. Alors c'est intéressant puisqu'elle annonce qu'elle aura une durée de vie limitée à 4 ans, ce qui d'ailleurs est très...
C'est
un pari sur Monsieur Trump. Après tout, il aura peut-être un second mandat. Mais il n'y aura que 16 numéros.
Ou il sera peut-être empêché avant de...
Il n'y aura que 16 numéros de cette revue qui est fort présenté d'une façon extrêmement attrayante, qui a un contenu tout à fait intéressant. Vous y trouverez pêle-mêle une longue interview de Toni Morrison, une nouvelle inédite de Scott Fitzgerald, une interview de Barack Obama sur sa vision de la littérature et de l'utilité de la littérature, des variations sur Moby Dick, etc., etc. C'est une vision de l'Amérique qui est un peu germano-pratine, il faut pas se le déguiser, mais qui est intéressante et qui vise à éclairer la société américaine et l'Amérique d'aujourd'hui à travers la littérature et les littérateurs. C'est donc un parti pris clairement littéraire qui fait de cette revue un objet tout à fait intéressant qui éclaire bien, je crois, pour partie la société américaine, mais qui est également très révélateur de la façon dont les Français voient l'Amérique.
Béatrice Gibelin.
Alors, moi, je voudrais vous parler d'un livre qui sera traduit à Actes Sud dans quelques temps, mais qui est un livre, à mes yeux, important, qui est Patria, qui est le livre d'un auteur espagnol, Fernando Aramburu, qui rencontre un immense succès au Pays Basque. Il a fait plus de 150 000 exemplaires et c'est un livre de 600 pages. Et c'est une fiction, mais qui correspond véritablement à la réalité. Et je voudrais en parler puisque aujourd'hui on bat tambour sur le fait que l'ETA a délivré ses caches d'armes. Et vous parliez des communicants, je pense qu'il y a d'excellents communicants pour l'ETA et qu'ils savent parfaitement mettre en scène la paix, ce qui suppose qu'ils étaient en guerre. Ils étaient en guerre dans un État démocratique au sein duquel ils ont quand même fait 800 morts. Donc je trouve que cette façon de faire qui essaye de réécrire le récit pour les mettre terroristes de l'ETA en tant que victimes, quand l'essentiel de la population basque a dû supporter pendant des années ce terrorisme séparatiste, est tout à fait insupportable. Et ce livre met en scène deux familles, deux femmes qui ont été amies. L'une a vu son mari assassiné par l'ETA après nombre d'extorsions parce qu'il était chef d'une petite entreprise de camions, et l'autre, son fils, est en prison puisqu'il était du côté des séparatistes. Et c'est cette histoire qui est racontée et qui rencontre un succès phénoménal.
À propos de la remise des armes par l'ETA, il faut noter que si le gouvernement français est allé se féliciter tout en rappelant les assassinats, le gouvernement espagnol, lui, oui, se refuse à y aller tant que l'ETA n'aura pas présenté ses excuses. Sylvie Kaufmann.
Alors moi, je vais vous parler d'un livre que j'avais négligé parce que c'est un livre politique, a priori, de Najat Vallaud-Belkacem, « La vie a plus d'imagination que toi ». Et je me suis dit, bon, ces livres politiques sont souvent assez plats. Et Najat Vallaud-Belkacem a elle-même très souvent un discours politique, un discours assez formaté, dirons-nous. Et puis, j'ai feuilleté les premières pages et je dois dire que je les recommande, car pour la première fois, elle raconte son enfance. Et c'est très instructif. Elle est née au Maroc, dans un petit village, à Beni Chiker. Elle est arrivée en France à 5 ans. Elle ne parlait que berbère, elle ne parlait pas français. Elle a grandi à Amiens, comme Emmanuel Macron, et elle est née la même année que lui, en 1977. Et elle a... découvert grâce à Bibliobus et au théâtre la culture française, la langue française, sa sœur et elle ont réussi. Ce sont des exemples d'intégration que l'on devrait citer beaucoup plus souvent.
Je vous remercie. Vous avez rendez-vous avec Alain Kruger pour On ne parle pas la bouche pleine, où il sera question des nourritures terrestres de Roland Barthes. C'était L'Esprit public, une émission de Philippe Meyer réalisée par Luc Jean Reynaud, préparée avec Augustin Bernard Roudex et Mathilde Cadreau, avec aujourd'hui à la technique Fabien Capel, Déborah Dagobert et Bernard Bernard Laniel, et il me reste à remercier le public attentif et, comment dit-on, supportif, enfin qui nous a soutenus, en tout cas pas souteneur, du Studio 105, qui a bravé le beau temps pour venir jusqu'ici. Merci beaucoup.